With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cet épisode vous est présenté avec la luxuriante participation de Dr. Rictus, Willis Jasper, Corentin Béchad, Yvan Desjardins, Philippe, Cornette Beer, Lucas Tarasconi, Brandon Sacol, Mathieu, Pince à linge, Jean-Claude Kutz, Twixer, Romain Pinsonneau-Fond, Malcolm Léon, Nicolas Rocher, Alain et Guillaume Malherbe. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et avant même de présenter mes co-animateurs du jour, je voudrais remercier très chaleureusement Jérôme et ses invités qui ont brillamment repris le flambeau de l'émission pour l'épisode précédent quand j'étais en train de tenter de me relaxer et de rester loin de toute l'actu tech. Ça a été un petit peu difficile, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir d'écouter l'émission parce qu'elle était particulièrement réussi. Je pense que c'est pas la fin c'est pas la dernière fois que vous entendrez Jérôme dans l'émission. Et autre chose importante, je voulais vous rappeler que nous avons le 10 septembre une fête à Paris pour célébrer les 10 ans de podcasting. Et oui, puisque c'était en septembre 2006, déjà il y a 10 ans que je lançais mon premier podcast qui s'appelait Azeroth.fr. Certains d'entre vous s'en souviendront. Et peu de temps après, 3 ans après seulement, je lançais le rendez-vous tech avec nos amis Yann et Jeff. Et donc, là, le premier, c'était il y a 10 ans déjà. Donc, on fait le 10 septembre. Souvenez-vous de cette date, le 10 septembre. Gardez-la dans un coin de votre cerveau. On fait une petite rencontre à Paris pour fêter ça tous ensemble et se raconter nos vieux souvenirs. J'espère que vous serez là nombreux. Tous les détails sont sur le site frenchspin.fr et je vous en retoucherai un petit mot en fin d'émission. Mais comme je le disais, donc je vais maintenant vous présenter mes co-animateurs, dont un, enfin les deux vous les connaissez, mais surtout Jeff qui était là dès le premier épisode du Rendez-vous Tech. Ça fait du coup presque 6 ans et demi, 7 ans quoi. Fou hein.
Ouais, ça ne nous rajeunit pas hein.
Oui, oui.
Entre ça et mettre mon fils dans sa troisième année de collège à la fin de la semaine, t'en prends un coup hein.
Oui, oui, non, c'est clair. Collège, tu veux dire université du coup.
Oui, le collège américain, l'université américaine, oui, c'est
donc,
ça.
Oui, c'est effectivement 10 ans quand je... Mais tu sais, c'est marrant parce que je pense à tout ça, et moi, je pense à où j'étais quand j'ai commencé, et je sais que de nombreux auditeurs aussi pensent à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient quand ils ont entendu leur premier podcast. Parfois, c'était un podcast que je produisais, j'ai cet immense honneur. Et en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont découvert les podcasts avec Azeroth.fr et qui me disaient « Ah, moi, j'étais au collège, justement, au vrai collège ou au lycée, et je t'écoutais quand je rentrais du collège ou tout ça. » Et maintenant, ils sont, ils ont fini l'université, ils ont un travail, parfois, ils sont mariés, parfois même ils ont eu des enfants. Donc oui, c'est des aventures qu'on a tous vécues ensemble et c'est ça que j'aimerais qu'on fête tous ensemble le 10 septembre.
Ce sera avec grand plaisir. Et l'autre jour, en fait, en marchant en San Francisco, j'ai quelqu'un qui vient me voir en disant « Merci pour ta participation au podcast, c'est génial, j'écoute.
Ah » oui.
Ouais, depuis le début, et je le connaissais ni des lèvres ni des dents, comme on dit. Mais tu vois, même à San Francisco, il y a des Français qui nous écoutent, et on les salue, de même que on salue tous nos éditeurs, nos auditeurs.
Oui, oui, effectivement. Et tu sais que moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'est même arrivé quand j'étais au Japon. Je suis tombé en plein milieu du marché de Nishiki à Kyoto sur deux auditeurs. Je me retourne, et ils font oh Patrick. Donc on a discuté un petit quart d'heure. C'était très sympa. Je les salue s'ils se reconnaissent. Ils sont partout, nous sommes partout. C'est magnifique.
Ça, mon ami, c'est la définition d'une célébrité.
Oui, fou. Bravo. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, ça
monsieur,
fait plaisir.
Monsieur ce Béja, c'est Monsieur Béja maintenant.
Kassim est là aussi. Kassim qui continue toujours et qui persévère dans sa spécialité Microsoft, qu'il exerce désormais chez Numérama et Frandroid, n'est-ce pas? Comment ça va, Kassim?
Bonjour, bonsoir, ça va très bien. Moi, je vous écoutais religieusement, là, les anciens parlaient d'il y a 10 ans, là.
Oui, c'est
loin.
Vrai.
J'étais jeune à l'époque, j'étais au lycée. mais d'ailleurs, enfin oui, en plus, un de mes premiers podcasts, enfin, c'était mon deuxième podcast, c'était le Rendez-vous Tech, justement. Alors, j'ai pas connu l'époque Azeroth, j'ai jamais joué à WoW, en plus. Mais par contre, je suis là depuis le début pour le Rendez-vous Tech, depuis Télécharge ton lait.
Ouh, Télécharge ton lait, oui, oui, c'était le premier ou l'un des premiers? Je me souviens de Obama Berry aussi, qui était l'un des premiers, mais...
Allez, c'était à l'époque où tu faisais des recommandations de logiciels et de services dans l'émission.
Ah, l'émission, ouais, j'allais dire elle a bien évolué, mais pas énormément en fait, elle a un petit peu évolué, mais oui, il y a des trucs qui ont un petit peu changé. Si vous avez accès aux archives... si vous êtes patriote et que vous avez accès aux archives et aux notes des premiers épisodes, vous pouvez aller retrouver les notes des tout premiers. Vous allez voir, c'est assez marrant. Ça a quand même un petit peu changé, quoi.
Mon point de repère, c'est que à l'époque, tu expliquais ce qu'était Twitter.
Exactement.
Donc, ça montre bien au niveau du temps.
Tout ce qui s'est passé, ouais. Mais rendez-vous compte, c'était 2009, il y avait tellement de choses qui étaient différentes. Les gens commençaient à être familiers avec Facebook, mais Twitter, effectivement, personne ne connaissait, quoi. J'expliquais
L'App
vraiment
Store
pourquoi
avait un
c'était
an.
Intéressant. L'App Store avait un an, tout à fait, ouais. Ouf, quel monde, quelle vitesse. Mais bon, effectivement, tout va très vite, hein, mon bon monsieur. On n'est plus tout jeune et les
météo,
jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui... Oui, voilà, les voitures qui se conduisent toutes seules. Mais on a quand même des sujets dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Et il y en a un en particulier qui, je pense, pourra être intéressant à traiter, justement parce qu'on a Jeff avec nous. C'est un sujet qui n'est pas la plus grosse news tech de l'histoire, mais qui m'a touché particulièrement. C'est la vente, ou plutôt l'achat du site et du groupe Curse Gaming par la société Twitch, qui a elle-même été acquise par Amazon il y a quelques mois de ça. Twitch étant une plateforme de streaming de jeux vidéo, et Curse Gaming étant un groupe de sites qui s'est développé au départ autour de World of Warcraft, et qui a développé tout un tas de contenus et de services autour de ce jeu et d'autres jeux. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est d'une part, c'est un site que je connais et que je suis depuis très longtemps, et qui m'a accompagné, entre autres, l'un des nombreux sites de World of Warcraft qui m'a accompagné pendant longtemps. Mais surtout, c'est pas tellement pour l'aspect jeu que j'aimerais qu'on en parle, c'est que c'est une des sociétés dans laquelle a investi notre ami Jeff Clavier, ici présent, VC américain désormais, et qui l'a accompagné pendant de nombreuses années, et qui a connu des évolutions importantes, hein. Il s'est passé d'un petit site à un réseau compliqué et vaste, et les créateurs se sont relocalisés aux États-Unis pour continuer à grossir, et donc c'est un investissement qui a duré très longtemps et qui s'est soldé donc par une sortie maintenant dont on n'a pas le montant, hein, je crois, j'imagine que ça n'a pas été révélé. Si je ne m'abuse.
Non, mais je peux dire qu'on l'a vendu pour 11 millions. Donc,
pour
voilà.
D'accord.
C'est dit.
Ok.
Non,
si
non,
vous avez compris,
on peut pas. On peut pas en parler. Je veux bien répondre à tes questions avec grand plaisir, mais tu ne tireras pas le montant de la transaction de moi.
D'accord. Bah écoute, intéressons-nous plutôt aux choses plus intéressantes justement. Je me disais que ça serait, ça pourrait intéresser les auditeurs de revoir un petit peu le parcours, comment ça s'est passé pour toi en tant qu'investisseur et pour eux qui n'étaient pas, d'après ce que je comprends, à la base non plus des entrepreneurs en série ou qui leur but à l'origine n'était pas de construire un énorme truc. Ils se sont lancés dedans par passion et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel. Alors, bah, je vais peut-être te donner la parole. Quel a été, toi, ton regard sur cette évolution? Ça a duré presque une dizaine d'années, non? Depuis le moment où tu es rentré.
Oui, c'est...
Pourquoi est-ce que tu les as choisis, etc.?
Je suis rentré en fin 2008 et donc on vient de vendre. Donc, c'est une aventure qui a duré presque 8 ans. Et pour Uber, le CEO, c'est plus de 10 ans. Donc un petit peu d'historique. Hubert Thiébleau, le CEO de Curse, était initialement un gros joueur de World of Warcraft. En fait, Curse, initialement, c'est le nom de la guide de World of Warcraft dont Hubert était le co-guildmaster avec... quelqu'un d'autre dont tu as entendu parler, j'en suis sûr, c'est Kungan. Et donc,
l'une des personnalités de World of Warcraft, des joueurs de World of Warcraft très connus, effectivement.
Qui était le guild leader de Nihilum, qui était à l'époque une des toutes meilleures guildes de WoW, qui est ensuite devenue Insidia. Et donc, initialement, Curse, c'est un ensemble d'outils, de modes et de contenus qui étaient développés pour les gens de la guilde, que ensuite ils ont étendu à un peu tout n'importe qui sur Internet. Et en fait, parce que le contenu commençait à avoir beaucoup de succès et que ça coûtait un certain montant de faire du hosting de ce contenu, ils ont mis quelques pubs. Et c'est comme ça, en fait, que le business de Curse est né. C'était juste comment faire en sorte de monétiser suffisamment pour payer les coûts de hosting.
Et donc ensuite, ça, c'était le début. Toi, tu t'y intéressais. Pardon, vas-y, je te laisse.
Ça, c'était dans les années 2005, 2006, 2007. Ils ont levé un premier tour de financement par des investisseurs français, ID Invest. Moi, j'ai rencontré Uber lors du web, parce que il y avait un panel sur le gaming. Et d'ailleurs, j'avais deux panélistes, Uber et Mathieu Nouzareth, et en fait, j'ai investi dans les deux. Après ça, donc merci Loïc Lomer. Et en 2008, donc on a fait notre investissement, on a ramené des tours de financement supplémentaires. Et 2009-2010, c'est quand la boîte a commencé à vraiment se développer aux États-Unis. On a fait un flip, la boîte est devenue une boîte américaine. Et
mais alors, attends, avant de se lancer dans le moment où ils sont passés aux États-Unis, toi, qu'est-ce que t'as vu dans la boîte? Pourquoi est-ce que t'as choisi d'investir chez eux alors que, enfin, on le sait bien, tu as de nombreuses opportunités. Toi, tu jouais à World of Warcraft à l'époque. Peut-être que c'était un domaine que tu connaissais, mais pourquoi est-ce que t'as choisi d'investir chez eux plutôt que dans d'autres sites? Il y en avait beaucoup, quoi.
Bien sûr. En fait, quand on va prendre une décision d'investissement, si tu veux, on va voir aujourd'hui, je vois quelques milliers d'entrepreneurs par an et je vais investir dans une petite dizaine. Donc, ça veut dire que, effectivement, la sélection est extrême. À l'époque, je voyais un peu moins d'entrepreneurs et j'investissais un petit peu plus. J'avais une stratégie d'investissement un peu différente. Et en fait, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était l'aspect communautaire de Curse, où il y avait énormément, c'était à l'époque des dizaines de millions de gens qui accédaient au site, qui utilisaient les outils et qui en fait faisaient de Curse un outil fondamental pour leur jeu sur WoW. Et déjà quand moi j'ai investi, il y avait WoW plus d'autres jeux. Et effectivement, le fait que personnellement j'étais impliqué dans l'univers WoW, c'était quelque chose qui m'avait intéressé. Je pensais qu'on pouvait vraiment construire un business intéressant avec des opportunités de monétisation qui allaient au-delà de la pub. Et donc la thèse, c'était Uber est un super entrepreneur, il a créé une communauté assez unique, c'est un marché qui était limité mais grandissant, parce qu'en fait l'idée d'appliquer la recette curse qu'ils avaient développé sur World of Warcraft à d'autres jeux était quelque chose qui était intéressant. Et c'était une opportunité d'investissement où je pensais que j'allais pouvoir effectivement à terme faire de l'argent.
D'accord, donc tu vois la personnalité d'Hubert qui effectivement a joué, et puis c'était une question de trafic, ils avaient suffisamment de trafic pour que ça soit intéressant à la base, et tu pensais que ça pouvait s'appliquer, s'étendre, s'appliquer à d'autres jeux, etc.
Exactement.
Donc là, tu décides de faire l'investissement, tu sais que tu vas être associé à la société pendant plusieurs années au moins. À quel moment et pourquoi est-ce que vous décidez, parce que je m'en souviens encore, on discutait à l'époque et enfin j'étais proche de tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette transition qui se fait aux États-Unis? Pourquoi est-ce que Hubert décide de concert avec d'autres personnes dont toi j'imagine, décide de déménager, de modifier la société pour l'emmener aux États-Unis alors qu'ils étaient à Paris, hein, si je ne m'abuse? C'est quand même un énorme changement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aux États-Unis qui était plus difficile à faire ici? Il semblerait que pour un site web, on peut tout faire de n'importe où, non?
On peut tout faire de n'importe où, mais à l'époque, bon, déjà, qu'on soit clair, Hubert avait déjà déménagé, il partageait son temps entre l'Europe et les États-Unis quand je l'ai rencontré. Et en fait, la décision fondamentale de faire le flip, c'est-à-dire de devenir une société américaine, c'était essentiellement, je dirais, une optimisation de structure pour aller chercher du capital aux États-Unis.
Donc c'était vraiment question d'investissement pour pouvoir continuer à grossir, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en Europe, je dirais c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais en Europe à l'époque, c'était pas évident de trouver des fonds pour les tours initiaux, mais trouver des capitaux d'expansion en 2010, 2011, 2012, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc,
je t'interromps une seconde. Loïc Lemeur, dont on évoquait à l'instant, a tweeté il y a quelques jours une phrase qui résume peut-être ça. On s'était pas concerté, donc je savais pas que c'était le cas, mais elle est appropriée. Loïc disait en anglais, mais il disait en Europe, on travaille dur pour lever un fonds de départ, et dans la Silicon Valley, les investisseurs travaillent dur pour investir dans les fonds de départ des société prometteuse. Donc c'est marrant de voir la différence de point de vue là-dessus. Mais
c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est moins difficile, si tu veux, pour les entrepreneurs. C'est jamais bon, c'est pas facile, mais c'est quand même moins difficile qu'il y a 5 ou 10 ans de lever du capital d'amorçage et je dirais les premiers tours de financement. Mais dès que tu veux commencer à aller chercher 10, 20, 30, 50 millions de dollars, soit tu vas chercher ce capital aux États-Unis, soit tu fais rentrer d'autres sociétés qui seraient plus stratégiques dans ton actionnariat, mais c'est pas aussi facile qu'aux États-Unis. Donc je pense que pour répondre à ta question de pourquoi le flip et pourquoi le déménagement, c'était cette volonté, un, de se rapprocher des éditeurs et des publishers de jeux où tu as quand même une grosse population aux États-Unis, c'est la capacité d'être proche du financement pour aller chercher donc autre chose que de l'amorçage. Et puis je pense que c'était aussi une volonté personnelle. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche d'Hubert, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du rêve américain et de cette volonté personnelle qu'il avait de bouger ici.
Alors là, on est en 2010-2011, peut-être autour de cette période. Et puis à partir de là, moi, je me souviens qu'on en parlait. Et du coup, je te demandais à l'époque même, mais quelles sont les perspectives avec Curse? Est-ce que tu vas pas sortir bientôt? Et toi, tu me disais, non, j'attends. Je laisse le truc courir, je laisse le truc évoluer et on verra s'il faut attendre plusieurs années... On peut attendre plusieurs années. Alors moi, de là où j'étais, je me disais bon, ça a l'air relativement stable, Curse, et cet investissement que tu avais fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ces 5 ans? Est-ce que tu as juste laissé le truc se développer tout seul? Est-ce que tu les as orientés? Qu'est-ce que c'est ces 5 ans?
On a bossé comme des chiens.
Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant à savoir, en fait.
Le point de vue, c'est évidemment, en tant qu'investisseur, tu n'es pas impliqué dans la boîte au jour le jour, mais bon, j'ai passé, donc je suis resté sur le board en tant que directeur depuis donc 2009 à 2016, donc pendant 7 ans. Au début, donc on a aidé la croissance initiale, enfin le déploiement, la croissance, les différents jeux. On a essayé de voir un peu la diversification. Est-ce que les jeux sur les consoles, ça peut être une solution pour nous? Bah non, en fait, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeux sur mobile? Donc on, tu vois, au fur et à mesure où les marchés se développent, on a essayé de regarder ce qu'on peut faire au niveau produit. La boîte s'est très bien développée. Et la raison pour laquelle elle a pu rester aussi longtemps dans le marché, c'est que au bout d'un certain temps, elle a réussi à atteindre la profitabilité. Et donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'investissement supplémentaire sur la partie initiale du business qui était le média. Donc, le modèle de business pour nous, c'était de vendre de la pub auprès d'annonceurs. Et donc, la boîte a très bien marché puisqu'on avait encore un trafic qui croissait, on avait atteint le milliard de pages vues, puis plus, etc. Et donc, c'était quand même un ensemble de sites relativement notable. On a fait pas mal d'acquisitions qui nous ont permis, en fait, de croître l'activité de façon externe.
Tu peux nous donner quelques exemples d'acquisitions, justement, qui ont aidé la société à...
Tu te rappelles peut-être de MMO Champion ?
Bien sûr, oui, tout à fait.
Tu te rappelles de Bobouille?
Oui.
Donc, Bobouille, il continue à travailler chez Curse. Il est encore là. Donc, maintenant, il va passer chez Stitch. Donc, on a fait quelques acquisitions. On a fait plein de petites acquisitions. On a fait quelques acquisitions stratégiques comme ça. Et puis, il y a 2-3 ans, on a commencé à se dire, comment est-ce qu'on fait pour passer le business au stade d'au-dessus? On a commencé à regarder avec la Chine et... parce que en Chine, il y avait des sites, par exemple comme YY, qui avaient une activité assez similaire à Curse, avec en plus un aspect infrastructure de messaging et de voix, donc un peu comme TeamSpeak ou Ventrilo, qui étaient les infrastructures que l'on utilisait pour faire des raids. Parce que oui, j'étais à l'époque raider sur WoW, donc je connaissais les outils. On a décidé de faire rentrer un nouvel investisseur dans un nouveau tour de financement purement américain, donc JGV, Hans Tung, qui est quelqu'un qui a investi dans Xiaomi et plein de boîtes chinoises, de manière à essayer d'ouvrir les portes de Curse sur l'Asie et de commencer à regarder, en fait, des activités supplémentaires. Ça nous a amené un an plus tard à recevoir, un peu plus, 18 mois plus tard, à recevoir un investissement stratégique de Riot Games, donc la boîte qui fait League of Legends. Et donc, ils ont investi 30 millions dans Curse. Parce qu'il y avait un intérêt, en fait, des fondateurs de League of Legends de se rapprocher de Curse et de faire en sorte que les outils de voix que l'on développe soient quasiment... Enfin, c'était une partie tierce, mais une super intégration avec LOL. Et puis, il y a quelques mois, il y a les amis de Stitch qui sont venus frapper à la porte. Twitch. Pourquoi je parle de Stitch? J'ai une boîte qui s'appelle Stitch. Les amis de Twitch qui viennent frapper à la porte en disant ce que vous faites, c'est super. C'est vraiment quelque chose qui serait super complémentaire pour nous. Est-ce que par hasard vous seriez intéressé à nous rejoindre pour en gros ramener tous les outils, la communauté de Curse à l'intérieur de Twitch? Et puis, comme tu réponds avec un grand sourire dans ces cas-là, ça dépend du prix. Et puis, il y a eu des négociations qui ont eu lieu. Et il y a quelques jours, on a annoncé le rachat de Curse par Twitch.
Alors, est-ce que c'est une évolution normale, classique, je veux dire? Normal, rien n'est normal, mais est-ce que c'est classique? Est-ce que le temps que ça a pris est à peu près ce que tu pensais? Est-ce que c'est une grosse réussite, une petite réussite, une réussite normale, là encore, pour une boîte?
En gros, aucune start-up n'a une trajectoire normale où ce qu'on peut te dire, c'est que pour des investisseurs qui viennent très tôt dans la vie des boîtes comme Softtech, la durée moyenne d'un investissement, c'est-à-dire entre le moment où tu vas investir et le moment où tu vas sortir, est de l'ordre de 6 à 8 ans. Donc de ce côté-là, oui, ça a été une durée, je dirais, dans la moyenne. Est-ce que c'est le type de sortie auquel tu t'attends? Bah, très clairement, quand nous on investit, c'est dans l'espoir de faire un multiple sur notre investissement initial. Et c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un certain temps, des fois, ma sortie la plus rapide, c'était 10 mois et 3 semaines. Donc, je suis sorti 10 mois et 3 semaines après être rentré. Et ma sortie la plus longue, je sais pas si c'est... Alors, attends. 2000, ça doit être Brightroll qui a été racheté après 9 ans. Donc, c'est pas du tout incongru d'avoir des boîtes qui marchent très bien, qui vont être profitables et qui sont rachetées pour un paquet d'argent. En l'occurrence, Brightroll a été racheté par Yahoo pour 640 millions. Et donc, tu t'attends à ce qu'au bout d'un moment, soit la boîte est rachetée par un autre acteur du marché, soit la boîte va sur les marchés publics, auquel cas, ça a un côté un peu prestigieux pour l'investisseur. C'était le cas pour moi avec Fitbit, j'ai fait une cinquantaine de sorties, mais Fitbit est la seule IPO dans laquelle j'ai investi depuis le tout début, et où on est sorti sur le marché il y a un an et 3 mois. Et même si c'est la plus prestigieuse en termes de sortie, c'est pas forcément la plus facile à liquider, parce que ça veut dire qu'ensuite tu te retrouves avec des parts d'une société publique, tu dois attendre 6 mois avant de vendre tes premières actions, ça va prendre du temps pour que tu sortes tes actions, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle le M&A, le Mergers and Acquisitions, c'est une sortie qui est beaucoup plus simple pas franchement à organiser, parce que bon, ça peut prendre des semaines et c'est beaucoup de négociations, et pendant la phase de cette phase de négociation légale, je crois que je parlais à Uber 2 ou 3 fois par jour, parce que c'est des aspects assez complexes au travers desquels il faut passer. Mais c'est une fois que tu as vendu, tu récupères ton cash et puis t'as
terminé,
fini quoi, alors.
Oui.
C'est terminé. Alors que quand tu fais une IPO, tu vois, j'ai encore une grosse partie de mes actions Fitbit que je vais vendre sur l'année qui vient, quoi.
Et alors, pour cette période de négociation de fusion ou de rachat, quel est ton rôle, toi, en tant qu'investisseur, et quelles sont les difficultés que vont rencontrer le CEO, le président de la boîte, en l'occurrence Uber? C'est du conseil finalement, c'est juste que toi t'as l'habitude de ce genre de truc et lui non, donc il peut venir vers toi et dire « Jeff, là il y a un truc que je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?»
Bah, c'est un, il y a de ça, c'est-à-dire que il y a 3 raisons pour que je sois impliqué. Une, j'étais un des directeurs du conseil d'administration d'Uber, et donc en tant que tel, j'ai dû approuver la lettre d'intention, approuver la transaction et donner mon feedback à Uber en tant que directeur. Et quand tu es directeur, tu vas représenter l'ensemble de tous les actionnaires, que ce soit les actionnaires les employés, les autres actionnaires investisseurs, et puis les tierces parties telles que Riot Games. J'étais un des investisseurs, donc c'était aussi mon intérêt et celui de mes investisseurs à moi qui était représenté. Et des fois, tu peux te retrouver dans une situation bizarre où les intérêts de ta classe d'investissement n'est pas forcément aligné avec celle des autres, et donc en tant que directeur tu dois regarder sur l'ensemble des intérêts, mais en tant qu'investisseur tu vas regarder tes intérêts. Et la troisième, c'est que depuis maintenant 7 ans, j'étais un des mentors d'Uber, et donc c'était mon rôle. C'est une relation très amicale, j'étais un coach, quoi. Donc c'est le coach qui aide son athlète à passer au travers d'une épreuve, comprendre l'impact de décision qu'il va prendre, l'aider à prendre ses décisions, lui donner les éléments pour prendre des décisions, parce que comme tout coach, c'est pas toi qui va courir, c'est ton athlète. Et clairement, la chose dont tu as besoin dans ce cadre-là, c'est des super avocats. Et donc Uber a utilisé une équipe, mon équipe d'avocats que j'utilise depuis maintenant des années, qui ont fait un super boulot. Et en gros, même si, en fait, quand on regarde ces nombreuses semaines de tractations, en fait, c'était pas un deal super difficile. C'est-à-dire que les deux parties voulaient vraiment travailler ensemble. Il n'y a pas eu d'énormes crises où, tu vois, bien souvent, une ou deux fois, tu as l'impression que bah, le truc va exploser parce que tu as une claire dissension entre la partie qui vend et la partie qui achète. Et ça n'a pas été le cas. Donc, globalement, c'était pas très difficile, mais c'est quand même des centaines de documents, enfin, de pages de documents à revoir et sur lesquels on se met d'accord, des tonnes d'agréments, de contrats, enfin, c'est super compliqué. Parce que bon, c'est une boîte qui avait 10 ans d'existence et donc, tu amènes 10 ans d'existence de cœur. C'est à l'intérieur de Twitch, donc c'est jamais très simple.
Et faut se mettre d'accord sur tout finalement.
Faut se mettre d'accord sur tout parce que tu peux pas laisser des trucs en disant ouais on verra ça plus tard. Parce que clairement sur les aspects taxes, sur les aspects en emploi des employés, compensation, etc. Ce sont des côtés qui sont, enfin des aspects qui sont pas super difficile, mais qu'il faut préciser, voir en détail. Mmh. Et donc, c'est ton boulot, c'est d'être sur plein de calls avec les lawyers. Et puis, les lawyers, ils vont te dire, ah voilà, on peut faire ça ou ça ou ça. Donc, tu vas essayer de comprendre l'impact de chacune des décisions. Tu vas dire, ah, est-ce qu'ils veulent ça? Est-ce qu'on pourrait faire ci? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Des fois, une ou deux fois, on se retrouve dans une impasse. Et donc, c'était, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, tiens, si on essayait ça. Et c'est plus, comme tu le disais, parce que je l'ai fait 50 fois ou une cinquantaine de fois et que Uber, c'est son premier rodéo, si j'ose dire, au niveau exit, j'ai pu lui donner ma perspective sur ce qui était normal, sur ce qui était raisonnable, pas raisonnable, ce qu'il fallait tirer, pousser, pleurer, le cas échéant.
Et alors du coup, on va conclure sur le sujet. Le terme que je retiens en fait, qui me paraît le mieux décrire ce que ton boulot, c'est ce terme de coach. Est-ce que le meilleur moyen de décrire ton boulot, en dehors de l'investissement qui est quand même important, c'est que t'es un coach quoi. T'es un coach pour start-up.
Ouais. C'est, je pense que bon, le côté investisseur est quand même important, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je coach quelqu'un comme Uber pendant des années, c'est parce que j'avais investi plus $1 million de mon fonds, donc j'avais un fonds de 15 millions et Kurs a reçu 1 million, donc ça veut dire que c'était un investissement très très important pour ce fonds. C'était aussi
Mais c'est pas par bonté d'âme, ça on s'en doute.
Non, parce que il y a des gens qui me disent, est-ce que tu peux me coacher, mais j'ai pas besoin de l'argent. Et malheureusement, après avoir fait, donc aujourd'hui Softex, on a $300 million en management, on a fait 180 investissements, et donc j'ai une équipe maintenant qui m'aide à investir et gérer le portefeuille. La seule raison pour nous de travailler avec une startup, c'est on investit d'abord et après on aide. Mais c'est vrai que donc il y a l'aspect soutien financier et après il y a l'aspect soutien qui est un peu en gros on investit et puis voilà t'as accès au pognon, mais je dirais que aujourd'hui surtout aux États-Unis c'est plus une commodité, c'est-à-dire que t'as énormément d'argent disponible pour les startups au niveau amorçage dans la vallée, et donc la grosse différence c'est le coaching, c'est toute l'aide, le soutien, le support, l'expérience, l'expertise, le track record, donc le fait que j'ai travaillé avec plein d'entrepreneurs qui sont super smart, qui peuvent aussi aider nos différents entrepreneurs. Donc on se crée un super réseau où les gens peuvent s'entraider. Et c'est ça en fait que les gens recherchent quand ils viennent travailler avec nous, c'est toute cette valeur ajoutée que notre marque et notre travail représentent, parce que bon, un investissement c'est relativement vite décidé, mais comme on disait, notre travail de coaching ça va être super important pendant les 2-3 premières années de la boîte, et puis après si on a bien fait notre boulot on fera rentrer d'autres coachs qui sont plus experts je dirais dans la vie des startups une fois qu'elles ont commencé à être mûres. Donc si tu veux, c'est nous, on est un peu le centre d'entraînement pour les jeunes athlètes une fois qu'ils sont prometteurs. Et puis, si on a bien fait notre boulot, on les amène en deuxième division, puis première division. Et puis après, ils sont champions du monde.
D'accord. Très bien. Bon, bah, écoute, champion du monde, c'est une belle perspective. Je suis en tout cas très content pour, bon, toi, à la limite, on s'en fout, t'as l'habitude, mais pour Hubert, qu'il ait réussi. Et puis, le boulot est pas terminé. Maintenant, j'imagine qu'il intègre les équipes de Twitch et puis il va continuer à développer le truc. Donc,
oui, parce qu'en fait, Curse, bah, c'est une très belle histoire. Je suis super, super content, ecstatic, comme on dit en anglais, pour cette sortie, parce que c'était objectivement quasiment le meilleur endroit pour que Curse continue à se développer. Et donc, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir comment Twitch va kingmake. Donc, le terme kingmaking, c'est quand t'as une boîte comme Twitch qui prend un asset comme Curse et en gros le pousse à leurs 100 millions d'utilisateurs et d'un seul coup ça triple ou quadruple l'utilisation de Curse. Et donc Uber, la boîte sera gérée de façon indépendante. Donc Uber continue en tant que CEO de Curse, même si en fait il a pas le titre de CEO puisque Curse n'existe plus en tant que entité indépendante. Mais ça va être géré de façon indépendante et je pense qu'ils vont faire de très très belles choses sur les quelques années qui viennent. Donc tu as raison. Moi on s'en fout, mais ce qu'ils ont fait c'est vraiment super.
Écoute, espérons que ça se passe bien et puis pourquoi pas, peut-être que un jour Uber reviendra vers son pays d'origine pour essayer de développer ce genre de choses qui existent mine de rien en France aussi. C'est une des choses dont on parlait souvent quand on parlait de gens qui réussissent avec des startups, ensuite ils développent les choses dans leur pays. Peut-être que Uber fera ce choix, mais on verra.
Il est confortablement installé à Los Angeles, là, je sais. Mais bon, on sait jamais, hein.
Oui, mais tu vois, il est encore jeune. Il a quoi? Il doit avoir 30 ans, 35 ans, peut-être.
Il a la trentaine d'années, ouais.
Voilà, c'est ça. Quand il aura 50, il se dira, peut-être que, bon, on verra. Peut-être pas aussi.
Non, parce que j'ai presque 50 et je me dis pas, peut-être pas. Hein.
Ouais, non, mais bon, ok. Bon, en tout cas, bravo, félicitations à tous les deux et merci pour ce long témoignage. C'était fort intéressant, ma foi. Et merci à Kassim d'avoir enduré la chose silencieusement.
Ah, mais c'était passionnant. Mais...
Bon, ouais, bah, très
oui,
bien.
Vraiment désolé, Kassim. Ah, d'habitude, je parle pas autant que ça. Promis.
C'est moi qui ai demandé, donc je suis responsable. Mais continuons maintenant avec un autre sujet, avec ce qui s'est passé du côté d'Intel. Il y avait le Intel Developer Forum, vous voyez avec ce bel accent en français, où il y a eu plusieurs annonces différentes. Il y a eu des choses dont on va pouvoir parler. Pour moi, la chose la plus importante, c'est que Intel a décidé de faire des puces ARM de 10 nanomètres. En fait, ce sont les puces ARM sur base ARM, c'est ce qu'utilise toute l'industrie du téléphone mobile, des smartphones. Enfin, c'est principalement ARM. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est le concurrent des puces sur la base X64 de Intel. Et du coup, c'est presque n'importe qui peut développer des puces sur base ARM, mais Intel ne l'avait pas vraiment fait jusqu'à maintenant parce qu'ils essayaient de faire passer leur solution propriétaire. Et le fait que maintenant ils se mettent à créer des puces ARM, c'est presque, à mon sens, un aveu d'échec. Mais surtout, ça veut dire que Intel va maintenant pouvoir, à grande échelle, fournir des puces à des gros constructeurs de téléphones. On pense bien sûr à des gens comme Samsung et Apple. Sauf que Samsung, ils ont leur propre fonderie, ils fabriquent leurs propres puces. Apple a toujours des contrats avec différents fondeurs, différents fabricants de processeurs, et Intel pourrait venir se glisser là-dedans. Donc c'est assez intéressant pour comme développement pour Intel à mon sens. Kassim, toi qui connais l'industrie du téléphone mieux que personne, est-ce que je dis des bêtises ou
faut savoir que Intel avait essayé de rentrer dans le marché du mobile façon old school en essayant de vendre ses propres processeurs qui venaient du monde PC en fait, en essayant de les réduire au maximum et en les faisant le consommer le moins possible, mais ça n'avait pas réussi à fonctionner. En tout cas, ils étaient arrivés trop tard en fait. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant entre Intel et Microsoft sur ce sujet, c'est que, enfin, ils ont tous les deux loupé le passage au mobile de façon assez extraordinaire.
Ouais, c'est-à-dire qu'Intel, je dis toujours Intel, il faudrait que je dise Intel, t'as bien raison. Ils ont, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire des puces qui étaient assez puissantes en consommant très très peu, et les puces ARM consomment très peu, et c'est pour ça qu'elles sont bien dans les mobiles.
En fait, historiquement, ARM, ARM, ils viennent de l'embarqué, en fait, donc de l'aviation ou de ce genre de choses. Donc, ils faisaient déjà des puces, en fait, qui consommaient très peu. Et quand avec l'arrivée du mobile, en fait, ils ont réussi à, du coup, à étendre leur marché facilement avec le mobile, puisqu'ils proposaient déjà des puces à faible consommation, alors qu'Intel, au contraire, ils venaient tout juste de sortir du Pentium 4, ils venaient tout juste d'arriver à faire des puces qui consommaient pas trop pour des PC portables, et ils étaient déjà contents de leur succès dans les PC portables, mais ça, ils étaient, enfin, on était loin d'un truc qui pourrait rentrer dans un smartphone, quoi. Ils ont mis du temps à développer les Intel Atom, et ils ont mis trop de temps, vu l'état du marché. D'autant que, comme tu disais, ARM, la différence avec Intel, c'est qu'ils vendent pas leur propre processeur. En fait, ils font de la conception d'architecture et ils la vendent après à d'autres sociétés comme Samsung ou Apple, qui reprennent ces architectures et qui les modifient à leur sauce. Et c'est aussi ce qui a plu beaucoup aux fabricants, surtout pour des appareils embarqués ou des petits appareils comme les smartphones. Et ça a permis à Samsung de créer sa propre architecture, à Apple de recréer sa propre architecture, etc.
Donc, mais c'est du coup, c'est fabricants. C'est une opportunité aussi pour Intel, parce que tu disais très justement qu'ils ont raté le coche du mobile comme Windows, comme Microsoft. Sauf que là, Intel peut reprendre au moins une partie du train en marche. Bon, ils sont pas propriétaires de la technologie, mais ils peuvent au moins s'y associer pour bénéficier de l'industrie. Alors que pour le coup, Microsoft, ils sont en difficulté. Mais donc, c'est un bon moyen pour Intel de se raccrocher au wagon, quoi.
Ouais, d'autant que Intel, ils avaient racheté il y a quelques années, alors je me rappelle plus du nom de la société, mais une société qui était spécialisée dans la fabrication de modems 3G et 4G, parce qu'en fait, l'un des enjeux aussi des puces qu'on a dans nos smartphones, c'est que c'est pas que des processeurs, c'est des puces qui intègrent tout un tas de technologies, dont le modem en général,
Qui permet de capter la 4G et la 3G. Dans certains iPhones, si je ne m'abuse, ils
exactement,
ont déjà une relation avec Apple.
C'est déjà le cas, je m'en rappelle plus si c'était déjà le cas ou pour les prochains iPhone en tout cas.
Peut-être pour
mais c'est sûr que oui, Apple et Intel ont un contrat à venir en tout cas sur ou c'est déjà ça. Le cas pour l'intégration de modem justement dans l'iPhone. Donc justement, et quand ils avaient retiré les puces Atom du marché mobile, il leur restait ce morceau 4G, 3G modem qui du coup leur servait moins dans le monde du PC, puisqu'on a moins de PC, on a moins besoin de PC fonctionnant la 4G que de smartphone, et du coup là ils peuvent réutiliser cet asset en fait avec cette fabrication de puces ARM. Et après, en plus, il y a aussi la force de frappe d'Intel en termes de recherche et de développement, puis de finesse de gravure, de maîtrise de la finesse de gravure.
C'est ça, les 10 nanomètres, on y arrive bientôt là, mais c'est quand même la technologie qui arrive ensuite et qui pose toujours, à chaque fois qu'on réduit la taille de gravure, ça pose des problèmes techniques hallucinants qui réussissent à résoudre, les différents fondeurs réussissent à résoudre avec des trésors d'ingénierie et d'ingénuité. Non, c'est pas un mot
de ce côté-là, Intel, par contre, ils ont quand même une grosse force.
C'est ça.
Et un gros avantage.
Ils ont aussi montré leur projet de réalité virtuelle qui s'appelle le projet Alloy, qu'ils appellent Mixed Reality, qui mélange en fait la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui est un casque sans fil de réalité virtuelle. C'est un petit peu... tout le monde a un casque de réalité virtuelle aujourd'hui. C'est vraiment, il n'y a pas un seul constructeur presque qui n'a pas son casque de réalité virtuelle. Donc c'est un peu un de plus, mais c'est un de plus parce que c'est Intel, et du coup celui-là c'est quand même un de plus intéressant parce que le fait que je dis encore Intel, c'est pas dur. Intel, le fait qu'Intel se mette à la réalité virtuelle ou réalité merger, mixer, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, terme marketing débile, mais qui se mettent à la réalité virtuelle, c'est encore une preuve de plus que tout le monde s'y met. D'ailleurs, je me demande, Jeff, que toi t'y crois ou t'y crois pas à la réalité virtuelle, est-ce que ça se sent aussi à ton niveau dans la Silicon Valley, cet emballement, ou est-ce que c'est déjà uniquement pour le consommateur, là ça y est, on a juste des produits et puis c'est plus le truc excitant pour les investisseurs?
Non, non, on est en plein dans l'excitement, l'excitation, excitement, dans l'excitation des investisseurs, que ce soit réalité augmentée, que ce soit réalité virtuelle, pas trop en termes de, allez, on va investir dans une boîte qui va être en compétition avec les grands Sony, Oculus, Intel, Microsoft, parce que ça coûterait beaucoup trop cher, mais c'est plutôt toute l'infrastructure, que ce soit la production de contenu, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les infrastructures de type, bah tiens, on va faire un réseau, j'ai vu passer deux ou trois réseaux de pubs, ou régie de pub pour la réalité virtuelle.
Mmh. Là, tu poses, tu dis, ouais.
Vous êtes pas un peu trop en avance, les gars, là, parce que d'ici à ce que je me tape de la pub alors que je suis immergé dans un jeu VR, je veux dire, c'est quand même pas de mal à veille. Donc effectivement, mais tu vois tout cet écosystème se construire.
Il vaut pas mieux développer le truc maintenant pour savoir comment le faire de manière à ce que ça soit pas trop négatif, plutôt que de s'y intéresser dans deux ans quand le truc sera déjà complètement développé, quoi, et qu'il sera trop tard.
Oui, tout à fait. Mais le problème, si tu veux, c'est que tu as l'œuf et la poule, d'accord ?
Ouais,
donc,
bien sûr.
L'œuf, c'est de dire, bah, j'ai la techno et donc je vais essayer de la développer le plus possible. Mais attends, il faut que je grandisse parce que si je grandis pas suffisamment vite, je vais pas arriver à un niveau poule, ce qui est en gros le marché est encore trop naissant. Et c'est ça le problème, quoi. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est encore un peu jeune pour que tu puisses te pointer auprès des investisseurs et dire, bah voilà, j'ai pas de clients, j'ai pas de base installée, mais ce que je fais, c'est super. Donc c'est un peu le souci.
Oui, nous, parce que là, il n'y aurait même pas d'application concrète encore aujourd'hui, parce que tu la mets où, la pub, sur les
bah,
trucs
en gros,
derrière,
ce qu'ils font, c'est ils ont intégré la technologie dans Unity. Donc, en gros, quand tu développes ton... Parce que la plupart des...
Unity, qui est un outil de développement de 3D, en fait. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits avec le mid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Middleware, ce qu'on appelle middleware, Unity, qui permet de c'est des outils pour développer des environnements 3D, en fait.
Voilà, et donc énormément des environnements de réalité virtuelle aujourd'hui sont basés sur Unity. Et donc ce que tu fais, c'est tu injectes tes assets dans Unity et puis tu appelles un sous-programme en disant bah tiens, montre la pub. Et aujourd'hui, ce que les Gus font, c'est ils te mettent littéralement dans un environnement 2D avec un écran. Et il te montre de la pub YouTube, et en gros tu te retrouves dans un cinéma, dans une salle de cinéma, et tu vois de la pub YouTube, quoi. Et tu te dis je suis pas sûr que en termes de pub immergente ce soit vraiment une approche géniale, quoi. Ouais. Et donc on est au tout début. Par contre, enfin, t'as pas mal de gens qui essaient aussi de développer des produits pour la partie industrielle. Donc on a vu passer des gens qui ont des lunettes de nouvelle génération qui font de la réalité augmentée, c'est-à-dire que tu es en train de regarder un boîtier d'une grosse machine, et en gros soit t'as un mec en train de te montrer ce qu'il faut faire au travers de ta lunette en réalité augmentée, ou tu as
HoloLens, quoi.
Genre HoloLens, voilà. Donc ça, on en a vu passer, et nous, on a fait un investissement qui est encore secret, mais qu'on va annoncer d'ici quelques semaines.
Le teasing.
qui est un pari complètement différent où en gros on va montrer une solution qui est en gros un cube de réalité virtuelle qui te permet de voir et d'interagir avec le contenu 3D ou réalité augmentée, enfin réalité virtuelle, sans avoir besoin de lunettes. Et c'est tout ce que je dirais. Mm-hmm. Mais ça va être grandiose. Ça va être grandiose. C'est Star Trek. T'as l'impression. Tu te dis, mais attends, c'est Obi-Wan Kenobi qui sort de R2-D2. Ah,
d'accord. Ok. Bah écoute, intéressant. Un bon teasing, effectivement, comme disait Kassim. Bon, bah on verra ça donc dans quelques semaines. Tu dis. Très bien.
Dans quelques semaines.
Sinon,
si tu es de passage à New York, je peux te faire rentrer dans les studios pour que tu vois le truc.
Bah écoute, c'était pas prévu, mais peut-être que je vais y aller du coup. Bon, la soirée du 10 est annulée, je vais passer à New York plutôt que... Non, ok. Intel a aussi annoncé le projet Euclid, qui est en gros tout leur système de RealSense, leur module de caméra, de détecteur de mouvement, etc. Ils l'ont mis dans un boîtier qui va leur faciliter la construction de robots, en fait. C'est leur idée, c'est qu'ils ont un boîtier, un élément qui donne à une machine, donc un robot en l'occurrence, la possibilité de comprendre, de percevoir tout le monde extérieur. Donc c'est un truc clé en main pour donner une perception de la réalité à une machine, donc à un robot a priori. Donc ils essayent de continuer à développer ça. On a aussi le fait que c'est un petit peu dans le même ordre d'idée, tous les nouveaux PC sous Windows 10 seront capables de faire tourner Windows holographique, donc le système qui fait tourner le fameux HoloLens dont on parlait, donc le casque de réalité augmentée là. Bref, Intel qui essaye de se développer dans plein de domaines différents.
Tout ce qu'il peut.
Ouais, un petit peu tout ce qu'il peut. c'est pas mal quand même dans l'ensemble tout ça. Ils se placent en fait en sorte de d'étape intermédiaire entre le simple constructeur de matériel. Ils proposent en fait des solutions clés en main finalement.
Ouais, alors ça m'a plutôt, enfin quand j'ai regardé la conférence, ça m'a plutôt donné l'impression que Intel voulait pas rater le prochain truc et donc on va tout faire dans le doute et s'il y a un truc dans le dos qui ressort, bah on aura été là quoi, et ils se servent de leur technologie. Après effectivement, l'idée derrière RealSense qui avait bien marché, c'est de proposer des solutions, en fait de proposer soi-même un produit, quelque part un peu comme je dirais comme ce que dans une autre ordre d'idée, comme ce que fait Microsoft avec Surface, c'est-à-dire de montrer un peu des fois le chemin pour l'industrie, en fait, de pouvoir indiquer voilà, ça c'est notre produit, par exemple dans le cas de Project Alloy qui est leur casque là de réalité virtuelle, réalité augmentée, ils ont dit qu'ils le mettraient en open source dès l'année prochaine, et bon on sent qu'ils veulent aider leurs partenaires, je sais pas, un Asus, un MSI ou un Acer à fabriquer son propre casque en utilisant
de la technologie Intel, quoi.
Voilà, et en utilisant leur partenariat avec Intel, quoi.
C'est un petit peu l'idée de Google qui, plus on utilise Internet, plus Google y gagne. Là, l'idée d'Intel, c'est plus on utilise ce genre de truc, plus on va utiliser la technologie Intel. Donc, ouais. Dernière info qui m'a fait sourire, c'est que Intel a expliqué que l'USB-C serait parfait pour se débarrasser de la prise jack, et qu'on pouvait faire passer le son dans les téléphones notamment par l'USB-C. Et donc c'est marrant parce qu'on débattait pendant des mois de la pertinence de supprimer la prise jack sur les téléphones Apple, avec toutes ces rumeurs qui expliquaient qu'elle disparaîtrait, et on se disait ah mais c'est Apple qui n'en fait qu'à sa tête, et c'est inutile, enfin c'est pas le moment de se débarrasser de la prise jack, qu'est-ce qu'on va faire avec nos casques. Et ça a l'air d'être, peut-être, hein, en tout cas Intel en parle, c'est peut-être une tendance qui est un petit peu plus large dans l'industrie et qu'on a entendu par Apple, mais peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui se disent c'est peut-être le moment de se débarrasser de cette technologie qui a plusieurs décennies maintenant et qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Même si la transition sera très difficile.
Et alors là, j'ai une très bonne idée, une très bonne solution pour les fabricants, et je suis sûr qu'ils vont tous la suivre. C'est de mettre deux ports USB type C sur leur téléphone.
C'est pas bête.
Et là, ça règle le problème. On a d'un côté les écouteurs en USB type C et d'autre côté le chargeur.
Ah,
hein, ils vont tous le faire. Hein ils vont pas vendre des adaptateurs.
Bah, l'idée, c'est de gagner de la place. Donc, je suis pas sûr que ça soit forcément la.
Ben si, parce que t'as pas le choix, de toute façon t'as besoin de charger ton téléphone en utilisant les écouteurs et donc tu vas forcément acheter un adaptateur et puis comme ça ils vont augmenter de quelques dizaines de dollars le prix qu'ils extraient de nous consommateurs.
Mais pourquoi après, donner quelque chose alors que tu peux le vendre? Ça n'a pas de sens, voilà, exactement.
On sent l'utilisateur d'iPhone.
Ouais, c'est ça, exactement, j'ai l'habitude.
Il y a le Motorola, normalement le dernier Motorola, si je me trompe pas. Ils ont coupé l'herbe sous le pied d'Apple avec cette nouvelle innovation. Il me semble qu'il n'a pas de port jack.
J'ai même pas vu passer ça, tu vois.
Donc, c'est pas non plus le plus gros fabricant de mobiles.
C'est vrai que Motorola, les pauvres.
N'est plus feu ce qu'il était. Ouais. C'est le Moto Z. Voilà, j'ai retrouvé le Moto Z qui a pas de port jack, mais qui a un adaptateur fourni par contre dans la boîte, je crois.
Donc, immense innovation, ils ont enlevé le port jack. Ça pourra donner lieu à une autre conversation à un moment, parce que c'est toujours le même débat entre le fait de supprimer quelque chose, est-ce que c'est bien ou pas bien. Bon, on pourra en reparler parce qu'il y a des arguments valides dans les deux sens en l'occurrence. Bon, passons aux news et rumeurs maintenant. Première chose, la société Lyft, qui est un gros concurrent d'Uber, aurait essayé de se vendre pour au départ 9 milliards de dollars à General Motors. Et puis ils avaient pas l'air intéressés. Là, c'était pas comme Curse et Twitch. C'était pas un mariage d'amour immédiat. Donc ils sont allés voir d'autres personnes, mais en fait personne a voulu de Lyft, les pauvres, même quand ils ont baissé leur prix. À côté de ça, on a Uber et Volvo qui ont fait un partenariat qui, selon eux, devrait mettre des voitures entièrement autonomes sur les routes d'ici 2021, donc dans 5 ans seulement. Ford a eux aussi, ils ont eux aussi dit qu'ils allaient établir un service d'appel de voitures autonomes d'ici 2021 et que les voitures autonome serait la principale source de revenus de Ford. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est assez incroyable cette accélération qu'on est en train de voir dans l'industrie de la voiture autonome. Je me souviens encore de quand on parlait des voitures autonomes de Google. Il y a suffisamment peu de temps pour que l'émission Le Rendez-vous Tech existe depuis un bon moment. C'était il y a peut-être, je sais pas, 3 ans, peut-être même 2 ans, on a commencé à en parler sérieusement. Et déjà aujourd'hui, il y a un tel emballement. Je sais pas, là on n'est pas des experts, mais à votre avis, c'est parce que tout le monde essaye de faire ce que n'a pas réussi à faire un tel ou d'autres, c'est-à-dire tout le monde essaye d'être là dès le début pour ne pas rater le train et à pas avoir à le prendre en marche, ou est-ce qu'il y a vraiment, là on est dans une telle lame de fond que c'est vraiment quelque chose de réel et on sait que ça va de toute façon arriver, quoi, et qu'il faut s'y mettre maintenant pour surfer sur la vague dont on sait qu'elle est réelle et c'est pas juste au cas où. Je sais pas si on a une réponse, mais à votre avis?
L'option B. Moi je pense qu'on va y aller. Je sais pas, moi ça me fait rêver de pouvoir. J'ai pas le permis et justement j'aimerais bien pouvoir voyager en toute sécurité sans.
Oui, mais entre entre le fait que ça te fasse rêver, moi il y a plein de trucs qui me font rêver.
Non, mais
2021,
dire...
des voitures entièrement autonomes, moi ça me paraît être. Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Volvo, mais 2021, c'est dans 5 ans quoi.
C'est long dans 5 ans. C'est loin.
Non, mais c'est long. C'est-à-dire on y est déjà. C'est-à-dire que
moi aussi.
Plusieurs points. Je pense que la voiture semi-autonome est arrivée beaucoup plus rapidement que on l'attendait avec le mode conduite autonome de Tesla. Et donc j'ai plein de copains qui font l'aller-retour Palo Alto, San Francisco, en gros en mode autonome, et qui font leur email, etc., sans même faire attention. Et c'est pas raisonnable. Moi je le ferais pas, même si j'ai tendance de temps en temps à regarder mon email quand je conduis, ce que je devrais pas faire. Faire complètement confiance à la voiture au point où tu ne tiens pas le volant, ça je le ferais pas. En tout cas, il y a des gens qui le font. Hier ou avant-hier, Uber a annoncé qu'ils lançaient leur flotte de tests de voitures autonomes à Pittsburgh. Donc là où ils ont un gros centre de développement à côté de Carnegie Mellon. Donc il y aura des chauffeurs qui seront à la place du conducteur, mais c'est la voiture qui prend les décisions et ils sont là juste au cas où. Quand tu vis à Palo Alto, tu vois passer très souvent la voiture Google. Donc on a vu les prototypes Google depuis le début, les voitures autonomes. Maintenant, tu vois la petite voiture Google qui n'a pas de volant, qui se balade avec sa forme en poire. Et je la vois de temps en temps arrêter à un stop sur une des grandes avenues de Palo Alto où même moi, humain avec une voiture puissante, je me dis putain, quand est-ce que je vais passer tellement de trafic. Et je peux te dire que j'aimerais pas être le mec qui peut pas interagir avec la bagnole au moment où tu dois rentrer dans le trafic parce que tu dois l'avoir toute petite. Mais donc
ça marche déjà, quoi, c'est ce que tu es en train de dire.
Donc c'est en train de marcher. Il y a aussi une acquisition intéressante de la semaine dernière, une startup qui s'appelle Otto. O-T-T-O, qui en gros, ce sont des roboticiens qui étaient en train de développer une solution pour les camions. Donc, avoir des flottes de camions autonomes, c'est un truc qui fait complètement du sens. La boîte a été rachetée pour 1% du... Donc, la boîte s'est lancée il y a 7 mois, d'accord ? 7 mois, et la boîte a été rachetée pour 1% d'Uber. Donc, 680 millions de dollars en stock Uber, ok ? Plus 20% des futurs profits d'Uber. Donc ça veut dire, et c'est Uber qui l'a racheté, pourquoi ? Parce qu'Uber a une ambition d'être la boîte principale dans le monde du transport avec une partie autonome très importante, parce que bah, une fois que tu as des bagnoles autonomes, tu n'as pas besoin des chauffeurs, et avoir suffisamment de chauffeurs fiables qui vont pas agresser les clients, etc., c'est un des plus gros problèmes d'Uber qu'Uber a aujourd'hui dans sa croissance. Donc je pense que, pour reprendre ta phrase, on est en train d'arriver au moment où la voiture autonome est une réalité. Est-ce que ça va prendre encore plusieurs années pour que tous les pays du monde changent leur législation, etc., etc. Oui. Est-ce que il y aura des changements au niveau assurance parce que bah tu te fais rentrer dedans par un robot, c'est la faute de qui ? Donc tu vois ce genre de choses. Du genre, est-ce que c'est la faute de
oui,
de l'utilisateur,
la responsabilité, c'est la faute, ouais.
Voilà, la responsabilité, etc. Donc tout ça, ça n'a pas été défini. Mais en termes de technique, je peux te dire que si tu m'avais posé la question, est-ce que tu t'attends, est-ce que début 2017, on est des flottes entières de voitures autonomes, je t'aurais dit tu fumes. Ça va prendre au moins 3 ou 4 ans de plus, et donc c'est en train d'arriver beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Et avec le rachat de Cruise, donc cette start-up qui, au bout d'un an, a été rachetée par 1 milliard par General Motors, ça a été effectivement un réveil tonitruant pour la communauté des investisseurs, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des avances techniques telles pour les constructeurs de voitures qu'ils étaient forcés de faire des acquisitions ou des investissements dans des boîtes telles que Otto, telles que Cruise, telles que Lyft dans le passé. Et le fait que Didi, en gros, ait intégré, enfin, ils sont en cours d'intégration de la filiale chinoise d'Uber, qui donne à Uber en fait un focus total sur les US, c'est une très mauvaise nouvelle pour Lyft, parce qu'en gros le père Travis, il va essayer de leur faire la peau, parce que du temps où il essayait de gagner en Chine, il avait autre chose à foutre, si tu veux. Mais maintenant que la Chine n'est plus sur son agenda, je pense que il va essayer de se faire Lyft.
C'est pour ça, peut-être, que Lyft a commencé à se dire, oula, peut-être qu'il serait temps de sortir. Et ils sont allés voir qui pouvait être intéressé pour les rachats. Bon, ouais. Bah écoutez, vous m'avez un petit peu convaincu. Je suis passé de, ouais, ils ont fumé, à, bon, peut-être que dans 5 ans, on y rêvera peut-être à peu près.
Moi, je rajouterais un truc juste sur... moi, je voulais dire, donc j'étais convaincu que ça allait arriver. Et du coup, je pense que c'est un peu l'occasion unique pour... c'est une très bonne occasion pour tous les acteurs du monde techno, en fait, de mettre un pied dans le marché de l'automobile, en fait. Et en même temps, le marché automobile veut pas... les constructeurs historiques veulent pas forcément se laisser bouffer leur marché, en fait. Donc du coup, enfin, il y a cette guerre-là aussi. Par exemple, on parle de Uber, on parle de Google. C'est des sociétés qui n'existaient pas il y a quelques années. Et là, c'est, enfin voilà, ça va être le choc des deux industries, quoi. Pour une industrie aussi historique et aussi vieille que l'automobile.
Je vais ajouter une petite mention. On parlait des problèmes que pouvaient poser les voitures autonomes il y a quelques épisodes avec cet accident dont on ne savait pas comment il avait été provoqué exactement. Il y a eu plusieurs histoires un petit peu plus positives que dont on a entendu parler ces derniers temps, dont une que je vais vous relater ici, c'est celle d'un conducteur de Tesla justement qui utilise sa Tesla et le mode autopilote depuis sa sortie, sauf que là il était dans la voiture et il a senti qu'il commençait à avoir des palpitations, enfin il se sentait pas très bien, il sentait qu'il était en train d'avoir une attaque cardiaque et du coup immédiatement il a demandé à sa voiture de l'amener à l'hôpital le plus proche et il a certainement eu la vie sauve grâce à la voiture qu'il a effectivement conduit à l'hôpital alors que lui il aurait pas été capable de conduire à cause de son attaque quoi. Donc c'est génial. Un exemple, ouais c'est assez fou ce genre d'exemple, mais c'est vrai que c'est le genre de choses aussi qu'il ne faut pas occulter quand on pense à cette technologie, aux problèmes réels qu'elle peut poser, mais voilà, il ne faut pas voir que les mauvais aspects de la chose.
Ouais, quand le film Catastrophe avec la femme enceinte qui accouche dans la voiture avec l'autopilote,
mais ça
c'est toujours une femme qui accouche.
Mais ça c'est pas un film catastrophe, c'est une magnifique histoire puisqu'elle peut arriver
ouais,
à l'hôpital
tout
de
suite.
Bien
sûr, bien sûr.
Tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Et si c'est une petite fille, elle pourra l'appeler Tesla.
Oh, magnifique.
Oh, là, je vois d'ici l'article.
On parle régulièrement de chiffrement. Il y a eu toute une série d'histoires de chiffrement et de lutte contre le terrorisme. Et la France qui veut une initiative internationale pour lutter contre le chiffrement, ou en tout cas pour encadrer le chiffrement, pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Une initiative qui a été poussée par Bernard Cazeneuve, d'ailleurs. Il y a le hack de la NSA qui a été... Alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est une société qui travaille avec la NSA ou pas? C'est un groupe qui s'appelle les Shadow Brokers, un groupe de hackers qui a récupéré des outils utilisés par la NSA. Alors, encore une fois, on ne sait pas d'où ils les ont récupérés, mais ils les ont... Enfin, si c'était une société qui travaillait avec, si c'était des outils qui n'étaient plus utilisés, etc. Mais en tout cas, moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, et je n'ai pas été le seul... Pardon, Kassim?
Mass Effect.
Ah bah c'est non pas du tout. Pas du tout, c'est vrai que Shadow Broker ça vient de là. Non, moi ça m'a fait penser au combat entre Apple et le FBI avec le FBI et les autorités en général qui disaient non mais vous inquiétez pas si vous nous filez la clé ultime pour pouvoir décoder n'importe quelle communication, nous on la gardera et personne ne pourra jamais y avoir accès et beaucoup d'entre nous disaient mais ça n'existe pas. À un moment, il y a toujours un truc qui se passe, une connerie, un truc qui se passe pas bien. Et la clé se balade se retrouve dans la nature, et du coup, tout le monde a accès à toutes les communications de tout le monde, et il n'y a plus du tout de chiffrement. Donc, à la base, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une clé générale pour tout le monde. Et il y a eu une autre histoire qui était intéressante. Les autorités belges ont demandé l'aide de la NSA, justement, pour espionner les téléphones lors de l'enterrement d'un terroriste qui avait été responsable d'une des attaques qu'on a connues récemment. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben voilà, la NSA a espionné et donc ça a servi ». Oui, sauf que là, c'est une surveillance très ciblée. C'est spécifiquement sur des gens dont on savait déjà qu'ils avaient des liens avec des criminels. Et on ne pourrait pas être plus loin de la surveillance de masse que les défenseurs de du chiffrement n'apprécient pas. Donc, c'est pas, on n'a jamais dit qu'il ne faut pas comment dire, d'agence de renseignement. Ce pourquoi on est plus circonspect, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est cette idée de la surveillance de masse. Et là, le résultat qu'a obtenu, le succès qu'a obtenu la Belgique en travaillant avec la NSA, c'était très ciblé. Donc on est exactement dans le cadre où tout le monde tombe d'accord pour dire que là, c'est cohérent. Donc voilà pour ça. Et d'une manière générale, on a cet argument qui est que le chiffrement rend le travail des services de renseignement très difficile. Et moi, ce que j'ai envie de, j'ai un petit exercice intellectuel auquel j'ai pensé, parce que ce raisonnement me paraît assez assez, comment dire,
dangereux.
Facile, dangereux. Oui, t'as raison, parce que effectivement, le chiffrement rend le travail des services de renseignement plus difficile, c'est certain. Mais il y a plein de choses qui rendent le travail des services de renseignement plus difficile. Il y a enfin énormément de lois qui sont là pour protéger la vie privée et les droits des citoyens. Et l'exercice intellectuel auquel je pensais, qui est complètement absurde, mais qui me paraît être intéressant pour, enfin philosophiquement, c'est imaginons qu'on ait une technologie qui permette de lire dans les pensées des gens. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Bien sûr, ça n'existe pas, mais peut-être que ça arrivera. Et même si ça n'arrive pas, l'exercice intellectuel, imaginons qu'on puisse lire dans les pensées des gens. Est-ce que on devrait autoriser les services de renseignement à lire dans les pensées du monde entier ? Ou à avoir la possibilité de lire dans les pensées des gens. Je sais pas, le fait d'y réfléchir me paraît, moi ça me paraît tellement comment dire, l'idée de violer l'intimité de quelqu'un à ce point me paraît extrêmement dangereuse. Donc là on est presque dans le même domaine, mais bon bref, c'est une conversation qui serait peut-être un petit peu plus longue à avoir, qui prendrait plus de temps et qu'on peut pas vraiment résumer en quelques minutes. Mais
moi je dirais juste que j'aimerais que Bernard Cazeneuve écoute le Rendez-vous Tech.
Voilà. Écoute, je pense que peut-être le Rendez-vous Tech, peut-être, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a de nombreuses personnes, et pas que dans la classe politique, mais dans le monde entier, qui pourraient largement bénéficier d'avoir plus de connaissances sur l'industrie tech, ça c'est certain. Google, on passe aux news un petit peu plus rapide maintenant. Google qui abandonne qui sépare les Hangouts on Air de Google Plus le 12 septembre. Ça, les Hangouts on Air existent encore, mais ça se redirige vers YouTube Live. C'est un exemple de plus que Google Plus est en train de disparaître petit à petit. Le l'app Duo est sorti sur Android et iOS. Je ne sais pas si elle est déjà disponible en France. Elle l'était pas quand j'ai regardé la dernière fois. Mais cette sorte de FaceTime multiplateforme développée par Google, du coup, est désormais disponible. C'est pas mal du tout. Android Nougat est disponible. La nouvelle version du système d'exploitation Android est disponible. Enfin, comme toujours. En fait, je me demandais. Ouais. Je me demandais pourquoi c'était pas tellement enthousiasmant que Android 7.0 soit disponible par rapport à la sortie. C'est toujours l'éternel concurrent d'un OS d'Apple. Et en fait,
moi, je peux te le dire.
Oui, voilà. Vas-y.
Je peux te dire, c'est 15%.
Ouais. 15% des téléphones du marché peuvent installer cette nouvelle.
C'est les téléphones qui sont sous Android 6.0 Marshmallow un an après sa sortie.
Oui, d'accord, oui. 15% de téléphones qui sont... la dernière version de l'OS n'est que sur 15% des téléphones.
Donc voilà, Android 7.0 vient de sortir, donc d'ici un an, vous serez 15% en avant. Voilà.
C'est le jeu, hein, c'est comme ça que fonctionne l'écosystème Android pour différentes raisons, mais c'est aussi pour ça que c'est pas aussi incroyable et excitant la disponibilité d'un nouvel OS Android.
Non, par contre, elle apporte beaucoup de nouveautés intéressantes. Puis après, Android ne fonctionne pas forcément que à la version de. Enfin, en gros, les applications. Souvent, on a le réflexe de penser que les applications ne seront disponibles que pour la dernière version d'Android et donc que ça prive 80% du marché de dernières applications. Alors que non, en fait, Google, ils ont séparé intelligemment la partie développement en fait d'applications. Et la partie OS, et du coup, par exemple, des applications comme Skype ou pas mal d'applications sont disponibles sur des téléphones qui sont encore restés bloqués sur des versions d'il y a 3, 4, 5 ans d'Android.
Quoi.
Je parle en fait des Google Play Services qui sont tout ce qui est publicité, les services de géomapping avec Google Maps, ce genre de choses, toutes les API qui font partie de ce système-là, sont mis à jour en fait sur le store indépendamment des téléphones.
Indépendamment de l'OS lui-même, oui. Donc voilà, il y a une partie Google, des nouveautés qui sont accessibles sur les anciens OS aussi, effectivement.
Yep.
Ok, un autre... Ah bah, Jeff, je crois que l'heure est venue de te dire au revoir, hélas.
Oui, malheureusement, je dois sortir pour aller donner une classe sur le Venture Capital. Je vais vous laisser. C'était un grand plaisir que, comme d'habitude, je vous rejoins. Et j'espère qu'on se retrouve d'ici un petit mois.
Très bien, c'est parfait. Bah, écoute, dis bonjour à tous tes étudiants. Dis-leur qu'ils doivent écouter le rendez-vous tech hein, pour tout comprendre. Et on se retrouve dans quelques semaines.
Je sais pas trop. Il faudrait peut-être faire la version in English parce que là, je pense qu'ils auraient du mal.
Ok, bon.
Filas Club.
Allez, Patrick, Kassim.
Ça marche.
Au plaisir.
Ciao, Jeff.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bah nous on continue hein, écoutez, avec un nouvel OS de Google qui s'appelle Fuchsia, qui est un truc hyper mystérieux. On sait pas très bien à quoi il va servir. C'est un OS qui est différent de Chrome OS et de Android. Visiblement il serait plutôt destiné au système embarqué. C'est ce qu'on imagine, ce dont on imagine qu'il va faire, mais il est apparu sur les sites de développement comme ça, sans annonce, sans rien, et du coup on sait pas très bien à quoi ça sert Fuchsia. C'est un petit peu bizarre.
J'attends toujours, j'aimerais bien que Google un jour se lance plus, enfin je sais qu'ils ont aucun intérêt économique à le faire donc ils le font pas, mais un peu en guerre, en gros qu'il y a un concurrent à Windows quoi un jour, sur, il y a Chrome OS sur les PC portables, ok, mais je parle d'un vrai concurrent quoi, un truc qui voudrait, qui aurait de l'argent plus que les Linux et qui essayerait de s'intégrer au PC et qui, tu vois.
Ça sera peut-être une prochaine étape, mais le marché des téléphones est tellement plus important.
Bah ouais,
je suis pas
voilà,
certain
et,
que.
Et le marché du PC est déjà tellement établi et tellement, enfin, c'est plus ouais. intéressant, quoi. Il y a pas de.
Oui, aller essayer de déloger Windows, on a bien vu que c'est pas facile, donc.
C'est ça. Mais bon.
Du côté d'Apple, il y aurait à venir en 2010. Bon, là, on est du côté des rumeurs, hein, mais il y aurait en 2017 un iPad avec une taille intermédiaire entre l'iPad Pro et l'iPad classique, qui ferait 10,5 pouces. Il y aurait aussi je sais plus ce que je lisais. C'était la nouvelle Apple Watch qui n'aurait finalement pas de données cellulaires parce que ça consommerait trop de batterie. Ça attendrait l'année prochaine peut-être, enfin l'année d'après encore, pour avoir une montre totalement autonome.
Ça m'a fait penser à la personne dans le dernier épisode dont j'ai oublié le nom par contre, un des amis de Jérôme qui voulait juste, enfin qui utilisait beaucoup sa montre et qui utilisait presque plus son smartphone et qui rêvait de pouvoir mettre une carte SIM en fait dans sa montre, d'avoir des données cellulaires. Mais effectivement, enfin on voit très bien que la 3G, enfin la 4G, c'est ce qui consomme le plus sur un smartphone déjà déjà avec la taille d'un smartphone et la taille de la batterie d'un smartphone, on arrive à peine à tenir la journée. Alors dans une montre, ça va être compliqué pour le moment.
Oui, ça c'est à mon avis c'est une bonne décision. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Quoi d'autre? Il y aurait un nouveau modèle de PlayStation qui serait présenté le 7 septembre. Je t'entends ricaner.
J'aime beaucoup ton conditionnel.
Il y aurait, oui, non, en fait, c'est même pas vraiment il y aurait, parce que oui, tu as raison.
Il y aura.
De te moquer, il y aura, en plus du modèle plus puissant, une version slim. Donc, c'est la version redesignée de la console existante. Et tout ça serait présenté le 7 septembre, le jour de la présentation d'Apple qui présenterait son iPhone 7. Donc,
T'as raison d'utiliser le conditionnel parce que ça reste la rumeur et il peut toujours y arriver quelque chose qui fait que ça n'arrivera pas. Mais en fait, si je rigolais, c'est parce qu'on a déjà eu moult photos. Alors pour le modèle slim, on a déjà eu toutes les photos. On a les photos de la boîte, on a presque le prix.
Oui.
Voilà. On a même des vidéos où on la voit démarrer, etc. Fait par Eurogamer. Et pour la PlayStation 4 Neo, enfin ça fait on n'a pas encore de photos du produit, mais enfin ça fait un an qu'on en parle. Les développeurs travaillent déjà dessus. Bon, ça va être compliqué de l'annuler maintenant, quoi.
Ça c'est sûr. Et donc oui, c'est Apple, ça serait le 6, je crois, hein, c'est ça. et Sony le 7, ou alors c'est les deux le 7, je sais plus. Mais en tout cas, effectivement, ouais, c'est encore que des rumeurs. Ouais. C'est, ça devrait, bah, là, on y est presque, hein. On est à 2 semaines, ouais, à peine plus, donc.
Cette semaine, c'est l'IFA, et dans 2 semaines, c'est la rentrée d'Apple et de Sony.
C'est ça, exactement.
Et le PlayStation VR dans la foulée aussi qui arrive.
Oui, bon, ça, on n'y est pas encore. C'est le 13 octobre.
Oh bah, je peux t'assurer. Je pense qu'à la présentation de septembre, ils vont bien en parler pour la PlayStation 4 Neo.
Oui.
Et
oui,
ses capacités graphiques en plus.
Sans doute. T'as raison. Oui, c'est vrai.
Voilà. Bah, Neo et Morpheus, quoi.
Ben oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Morpheus, c'est le nom de code de la PlayStation VR, du casque de réalité virtuelle, et Neo, c'est la nouvelle console plus puissante, donc Neo et Morpheus, effectivement, les fans de Matrix reconnaîtront. Tant qu'on parle de jeux vidéo, il y a Facebook qui est en train de développer en partenariat avec Unity, dont on parlait tout à l'heure, cet outil de développement 3D, un store, en fait, une boutique en ligne pour Windows, pour des jeux. Donc c'est un concurrent de la plateforme Steam qui hébergerait au début, en tout cas, uniquement des jeux plutôt type jeux Facebook, mais qui à terme pourrait, pourquoi pas, héberger les jeux via de l'Oculus, hein, qui appartient à Facebook, on le sait, et peut-être des jeux tout court. Donc, peut-être que Facebook est en train d'aller grignoter sur les plates-bandes de Steam pour le gaming PC. Ça serait assez impressionnant comme nouvelle direction qui... Enfin, bon, on extrapole un tout petit peu, mais Facebook est vraiment partout, quoi.
Alors, moi, je trouve ça très intéressant pour le côté Oculus, puisque ça leur permettrait... Ils ont déjà l'Oculus Store, il me semble, pour l'Oculus Rift, mais ça leur permettrait vraiment d'avoir une plateforme comme ça de distribution de jeux, effectivement. Bon, alors moi, mon cœur de gamer PC, il saignait un peu, parce que je suis plutôt fan de l'approche de Steam, et bon, déjà, quand Facebook avait racheté Oculus, tu vois, j'ai une partie de moi qui avait pleuré un petit peu. parce que c'est le méchant Facebook, tu vois, c'est lui qui veut voler toutes nos données, qui fait des Farmville et tout ça, alors, et qui fait des free-to-play, alors... moi, voilà, joueur PC, moi, j'aime bien payer mes jeux, tout ça. Bref, mais je trouve ça très intéressant, et il y a Facebook, quand tu penses à Facebook Messenger, imagine des jeux vidéo avec Facebook Messenger en overlay, la puissance du truc en termes de force de frappe et de parc d'utilisateurs et tout ça. Il y a des choses à faire quoi, s'ils veulent. Quoi.
D'ailleurs, si je ne m'abuse, Instagram vient de devenir une app téléchargée 1 milliard de fois sur l'App Store, le Play Store. C'est la 4e app Facebook à être téléchargée 1 milliard de fois. Enfin, avoir un
milliard.
Voilà, exactement. Mais c'est marrant de voir que Facebook, bon, on n'y est pas encore du tout, mais on se dit, ils ont peut-être une chance de venir concurrencer Steam, qui n'a quasiment pas de rival sur la plateforme, sur Windows, alors que Microsoft même n'ont pas réussi à concurrencer Steam dans ce domaine, même s'ils y sont allés à moitié.
Quand tu dis rival de Steam, moi, les 3 rivales de Steam que je vois pour le moment, c'est le Windows Store, Origin et GOG. Et bon, les 3, je suis un peu obligé de rigoler quand je pense à Steam, quoi.
Enfin, c'est ça, ouais.
GOG, ouais. Ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont un petit peu indépendants et ils peuvent pas grossir aussi vite qu'ils voudraient. Et EA avec Origin, Ubisoft avec Uplay et Microsoft avec Windows Store, ils se sont pris les pieds dans le tapis, mais x10, quoi. Enfin, Origin, quoi, ou Uplay, quoi, le truc qui marche une fois sur deux.
Non, mais c'est pas tellement le problème qui marche une fois sur deux, c'est que la plateforme Steam a une telle
hégémonie.
Et oui, voilà, c'est complètement hégémonique. Donc, EA, ils ont besoin d'avoir leur plateforme parce que quand ils passent par la plateforme de quelqu'un d'autre, bah, ils payent les fameux 30% ou un pourcentage peut-être moindre, mais en tout cas, ils payent une grosse partie. Donc, évidemment, ils veulent avoir leur propre store. Ça veut pas dire qu'ils ne vont vendre que par leur store, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur leur propre store, ils n'auront a priori que les jeux qu'ils éditent eux-mêmes. Donc, je pense pas qu'il y avait forcément vocation à remplacer Steam ou à venir déloger Steam.
Si, si, quand ils ont créé Origin à l'origine, ils avaient vocation à éditer eux-mêmes leur jeu pour se séparer de Steam, effectivement, mais il y avait aussi l'ambition, quand même, il me semble, d'héberger des jeux d'autres éditeurs. D'ailleurs, je viens de vérifier, il y a bien, t'as du The Witcher, du Assassin's Creed quand même sur Origin, quoi.
Ah, d'accord.
Donner des exemples. Mais après, ouais, effectivement, ils n'ont jamais percé et 90% du catalogue, c'est des jeux EA Games, on est d'accord.
Oui, bon, d'accord, effectivement. Je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des jeux d'autres éditeurs chez OG.
Non, mais voilà.
Comme quoi.
C'est QFD, quoi.
Bon, dernière info, c'est, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait parlé un moment d'un partenariat entre Microsoft et l'éducation nationale. Alors, je lis l'article de l'informaticien. Ça avait été établi en novembre 2015 et c'était un partenariat assez important. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le nouveau développement, la nouvelle sur le sujet, c'est que il y a un collectif qui voulait remettre en question ce partenariat. C'est le collectif Edunaton qui disait que ce partenariat aurait dû donner lieu à ça aurait dû être un marché public
un appel d'offres.
D'appel d'offres, exactement. Il n'y a pas eu d'appel d'offres et c'était simplement un partenariat qui a été signé. Mais c'est l'équivalent d'un marché public qui aurait dû donner lieu à un appel d'offres. Et comme il n'a pas eu lieu, bah évidemment, les choses n'ont pas été faites dans les règles. Il faut, pour les marchés publics, qu'il y ait un appel d'offres. On sait bien pourquoi. Donc, visiblement, effectivement, la chose va être revue il y aura un juge qui va décider de la chose, ça s'est remis en question possiblement. Donc voilà, je sais que ça fera plaisir à certains des auditeurs qui se plaignent de l'hégémonie, on parlait d'hégémonie, mais de Microsoft et de Windows, et que c'est selon eux, grâce à ce genre d'opération pas très honnête, qu'ils réussissent à maintenir cette hégémonie, et que donc il est peut-être opportun de les remettre en question de temps en temps. Donc voilà.
Ce qui est sûr, c'est que c'est bien qu'il y ait des gens pour vérifier, enfin que le contrat n'ait pas été fait malhonnêtement, et donc je trouve que c'est bien qu'il y ait eu un recours et qu'il sera analysé par la justice, donc on verra. Et je sais qu'ils doivent le vérifier très bientôt, parce que vu que ce partenariat, cet accord, il devait rentrer en vigueur pour la rentrée en fait des classes, et si c'est effectué, ce sera trop tard. Donc il me semble qu'ils doivent le juger avant la rentrée, avant
la date
le
qu'on
10
avait,
septembre,
c'était le 8 septembre.
Ça. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, il va falloir juger de la chose avant la rentrée des classes, sinon c'est un peu trop tard. Non, mais moi je pense qu'il y a un vrai débat à avoir justement sur quels outils. C'est compliqué quoi de savoir quel outil tu donnes à nos enfants pour aller sur pour utiliser les nouvelles technologies quoi. Enfin c'est, en gros, c'est est-ce qu'ils doivent utiliser ce qu'ils ont déjà peut-être à la maison ou ce qu'ils ont certainement à la maison qui sera Windows, ou plutôt quelque chose, peut-être c'est peut-être l'occasion justement de les ouvrir à du libre, quelque chose qu'ils n'auront pas à la maison, donc plutôt du Linux ou des logiciels libres type LibreOffice. Et ou est-ce qu'il faut surtout bien les apprendre à utiliser Windows de la bonne façon, parce que c'est ce qu'ils auront en entreprise peut-être plus tard, et du coup il faut les former à ce qu'ils vont utiliser dans le cadre de leur futur emploi, etc. Donc ça, c'est les façons de voir l'éducation.
C'est exactement la question, et c'est exactement la question qui se pose dans l'éducation, bien sûr, mais dans d'autres domaines. Est-ce qu'il faut, pour schématiser, utiliser Windows parce que c'est ce que les gens utilisent, et du coup c'est le poisson qui se mord la queue.
Voilà,
le poisson qui se mord la queue. Donc, est-ce qu'il faut utiliser Windows parce que c'est ce que les gens utilisent, ou alors est-ce qu'il faut essayer d'amorcer l'utilisation d'autres types de logiciels, peut-être de logiciels libres, par exemple, parce que ça serait une meilleure chose pour, d'abord, ça apporterait plus de variété et d'options et de diversité dans le marché, et puis ensuite, on connaît tous les avantages qu'ont le logiciel libre. au risque que, on l'a vu, c'est depuis 15 ou 20 ans que les gens se battent contre Windows, au risque d'acquérir des compétences qui sont pas totalement adaptées aux réalités du marché. Et là encore, c'est le poisson qui se mord la queue, parce que si on le fait jamais, forcément, le marché ne va jamais changer. Donc, c'est compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué. Mais en tout cas, au moins là, si jamais il y a une question de marché public...
Il sera tranché.
Sur ce cas précis, quoi.
Oui, oui, oui.
Écoutez, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais évidemment proposer à Kassim de nous dire où on peut le retrouver sur Internet, et puis je vous dirai quelques mots encore sur les 10 ans de podcasting et notre soirée dont je vous parlais en début d'émission. Mais avant ça, Kassim, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver?
Je suis toujours très content de participer à l'émission. Après je suis triste après coup parce que je réalise que j'aurais pas d'épisode à écouter. Ça, c'est un problème. Donc on peut me retrouver principalement sur Twitter @notcassim, donc NOTCA2SIM. Et sur les sites où j'écris, c'est principalement Numérama et Fandroid. Et on peut montrer aussi dans le podcast Lifestyle, ou qui va bientôt faire sa rentrée d'ailleurs. On a fait une pause pour l'été, pour prendre des vacances un petit peu. Et on va faire notre rentrée très bientôt.
Magnifique, merci Kassim. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, et vous pouvez retrouver bien sûr les émissions sur frenchspin.fr. Comme je le disais, il y a le 10 septembre, alors je vais me répéter un petit peu, on est au bar Le Courcoran, qui est au Sacré-Cœur, et certains d'entre vous s'en souviendront, parce que c'était là-bas qu'on avait fait la précédente soirée l'année dernière. C'était pour les 1 an de Patreon, donc c'était l'occasion de se retrouver pour ça. Mais cette fois-ci, donc, ça sera plutôt dans l'après-midi, avec la suggestion de certains auditeurs qui me disaient, si on est en province, c'est plus simple si on le fait dans l'après-midi, comme ça on peut venir pour la journée. Et effectivement, donc ça sera à 15h le 10 septembre au bar Le Courcoran du Sacré-Cœur. Tous les détails sont sur le site frenchspin.fr. Je le tweeterai, je le mettrai sur Facebook de temps en temps aussi, mais réservez déjà votre après-midi de 15h à 17h, on va dire. Il y aura plein d'auditeurs, il y aura, j'espère, des podcasteurs qui vont venir aussi. Et puis, quand même, comme je le disais, ça fait 10 ans que je fais du podcast, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là pour qu'on partage ce moment ensemble. Donc voilà, le 10 septembre à 15h à Paris. Et bien sûr, les patriotes qui ont permis d'accompagner ce qui est aujourd'hui la dernière étape de cette aventure, c'est-à-dire la professionnalisation, le fait de pouvoir en vivre et que ça soit un vrai métier désormais, podcasteur, puisque c'est le cas, hein, je suis un podcasteur professionnel, c'est grâce aux patriotes, c'est grâce à ceux qui apprécient l'émission et qui contribuent financièrement à son existence. Donc un immense merci à eux, évidemment, ils ont une place toute particulière dans mon cœur. Et n'oubliez pas, j'essaierai d'amener les petits badges patriotes pour ceux qui veulent les porter pour la rencontre du 10. Et si vous voulez vous aussi soutenir l'émission, vous le savez, c'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est disponible sur le site et dans les notes de l'émission, donc vous pouvez y avoir accès très facilement. Donc voilà, merci mille fois aux patriotes, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, évidemment. Ciao à tous.